Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Apprend-on encore par cœur? À la maternelle, à l'école, au collège, au lycée, en faculté, plus tard dans sa vie professionnelle, ou par goût, ou par nécessité, ou par prudence, afin de faire travailler sa mémoire. Et, si l'on pratique encore le par cœur, vers quel texte, vers quelle table de multiplication se dirige-t-on? On doit pouvoir tout fixer dans sa mémoire, mais on sait bien aussi que l'on oublie beaucoup, que l'on oublie peut-être trop. Mais également que chez les personnes très âgées qui ont perdu la mémoire proche, ressurgissent parfois des souvenirs très anciens et des poésies apprises par cœur dans l'enfance. Pourquoi donc ? Nuit magnétique, deux ou trois choses que je sais par cœur, première diffusion sur France Culture le 27 mars 1998.
Nuit magnétique, bonsoir. Deux ou trois choses que je sais par cœur. Catherine Soulard, Véronique Lamandour.
Il me semble que apprendre par cœur, tous les jours, un petit quelque chose, même le mode d'emploi ou la posologie d'un médicament, apprendre quelque chose tous les jours, à mon avis, ça doit être le petit vélo de la matière grise qui aide à remuscler la matière grise.
Apprendre des choses par cœur, c'est utile quand même. Maintenant, évidemment, il faut encore pouvoir, il faut que ça plaise, il faut que ça... Moi, ça me plaît.
C'est par cœur, c'est par corps, c'est par pied, c'est par main, c'est partout, quoi. D'ailleurs, c'est vraiment, c'est tout le corps qui rentre en mémoire, quoi. Et les mots du texte sont qu'une petite partie de cette mémoire.
Il faut pas réciter la 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 la. Il faut comprendre. Il faut raconter comme si c'était une histoire, comme si ça nous était arrivé ou quelque chose d'autre.
Le fil rouge du par cœur dans la vie d'un enfant, c'est effectivement l'apprentissage des poésies. Et je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré, en moi-même bien sûr, mais des camarades qui aient complètement loupé le par cœur sur les poèmes ou les poésies. Bon, ils apprenaient plus ou moins bien, ils avaient des hésitations, ils avaient des mauvaises notes, mais finalement, tout le monde apprenait. Tout le monde apprenait et récitait avec plus ou moins de bonheur. Je passe sur le ton qu'on y mettait ou les mimiques qu'on pouvait esquisser.
D'abord, il y a eu Ronsard, La Fontaine et Prévert. Des départements avec chef-lieu et sous-préfecture. Des identités remarquables et des racines carrées. Des dates de bataille. Ensuite, des tirades du Cid, d'Esther, d'Antigone, des poèmes de Baudelaire, Rimbaud, Nerval, des pages entières de conjugaisons latines, de verbes irréguliers, et de longues listes de citations glanées ici ou là. Et j'ai oublié. Et puis, j'ai retrouvé des rythmes, des musiques, des bribes et des formules aussi. Au hasard d'un mot attrapé au vol, d'un texte redécouvert, d'une figure dessinée, d'une leçon à faire réciter. Mais pourquoi ai-je retenu ce poème de Victor Hugo que je revois encore dans mon livre de classe sur la page de gauche, tandis que l'infante Marie-Marguerite d'Autriche occupait entièrement la page de droite dans le tableau de Velázquez, Las Meninas. Elle est toute petite, une duègne la garde. Elle tient à la main une rose et regarde. Quoi ? Que regarde-t-elle ? Elle ne sait pas. l'eau, un bassin qu'assombrit le pain et le bouleau, ce qu'elle a devant elle, un cygne aux ailes blanches, le bercement des flots sous la chanson des branches.
Apprenant très vite, j'oublie extrêmement vite aussi. J'ai souvent constaté que, en général, une semaine après avoir arrêté de jouer un spectacle, je me souviens vraiment très imparfaitement du texte que je peux avoir joué pendant des semaines et des mois avant. Mais ça, c'est parce que j'apprends vite. Et c'est comme si ça rentrait dans des couches...
Superficielles ?
Oui, enfin, je dirais pas superficielles, parce qu'en même temps, il y a toutes ces mémoires qui sont entrées en jeu, et ça, c'est pas superficiel, mais comme si ça se mettait... Mais ça, bon, c'est, on est en plein paradoxe de l'acteur. Hein.
C'est pas dans du marbre, quoi, que ça rentre.
Non, c'est jamais dans du marbre. Et c'est tant mieux, d'ailleurs, que ça soit toujours un peu dans du beurre, quoi, parce que le beurre, c'est plus... c'est meilleur, quoi. C'est plus... c'est plus agréable.
Des alexandrins, par corps, par pied, par main, en tout cas du fond du cœur, avec Éric Dufaille. Pour Maurice Melot, il y aura le maître étalon, le détroit de Skagerrak, les poèmes de Solzhenitsyn, le chant 4 de l'Énéide et le début de l'Iliade. Avec Alice, il y aura Arthur le petit sireur, la cigale, la fourmi, une tartine de confiture, les violons de Verlaine. Et pour Léa, un poème en portugais. Pour Simone Sacotte, ce sera Neige, les clairières émerveillées de Saint John Perse et quelques déclinaisons latines. Pour Odile Grand, il y aura des chants yiddish hongrois, un petit foulard de soie rouge, des chansons de traînée, de la musique, de toute façon.
Bon, d'abord, je voudrais mettre en examen la formule « savoir par cœur » ou « connaître sur le bout des doigts » ou « savoir au rasoir » parce que c'est quand même une coquetterie de langage. Le cœur n'a rien à y voir, les doigts non plus, et le rasoir non plus. Bon. C'est évidemment le cerveau. Ceci posé, moi je me suis demandé comment ça se disait dans d'autres langues. En anglais, on dit, comme en français, « to know by heart », ce qui prouve que l'anglais est une espèce de, ce qu'on soupçonnait depuis longtemps, une déformation de la langue française, sans me vanter. En italien, moi je me suis dit, il va y avoir « cuore » quelque part. Pas du tout. Ils sont beaucoup plus malins que nous, est beaucoup plus précis, puisqu'ils appellent savoir par cœur, apprendre par cœur ou savoir par cœur, en italien se dit sapere per mente, mental. En espagnol, j'attendais aussi un petit corazón, pas du tout, c'est saber por memoria. Et puis j'ai demandé aussi comment on disait cela en allemand. Si alors là, évidemment, il faut toujours que ce soit différent chez eux. C'est auswendig können, ce qui veut dire... C'est une très jolie langue, par ailleurs. Auswendig können, c'est pas très doux, mais c'est très beau. Et ça veut dire können, c'est savoir, comprendre. Et auswendig, ça veut dire en dehors, c'est-à-dire en dehors de la tête. C'est-à-dire qu'on peut le sortir quand on veut, comme d'un tiroir. Donc voilà, un sort est fait à la coquetterie de langage en français et en anglais.
Na queda inútil ficou-se a espada partida. Se os homens quisessem um engenho assassino, as armas da morte talvez se rompessem sem nada valer. Espada dilata do loiro menino, se os homens quisessem e os homens vão querer. Álvaro Feijó. Voilà.
Tu racontes quoi, Léa?
Eh ben, ça raconte l'histoire en... Un peu, enfin, le titre, ça veut dire si les hommes voulaient. Et c'est comme un mot d'espoir pour dire que si les hommes voulaient, le génie assassin, et ben, les armes de la mort se romperaient à tout jamais sans rien vouloir. Et ça veut dire que la guerre, comme ça, elle arrêterait.
Tu sais des choses par cœur, Alice?
Ouais, des poésies que j'ai inventées, mais bon, je ne vais pas vous les réciter toutes parce que j'en ai eu beaucoup. Mais par contre, je viens vous en réciter quelques-unes.
Que tu as inventées toi?
Oui.
Oh ben oui.
Alors, le petit sireur. Un jour que le que monsieur le sire se promenait par ces forêts-là et il rencontra un cireur et il dit « Monsieur le cireur, pouvez-vous me cirer ces chaussures ?»« Oh mais bien sûr, je vais vous cirer vos chaussures. » Au fait, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Arthur. Arthur, peux-tu me cirer mes chaussures ?»« Oh mais bien sûr, mon sire, je vais vous cirer vos chaussures, » dit Arthur. « Non, pas de cette couleur-là. Alors je vous cirerai d'autres chaussures la prochaine fois. »« Oui, mais en tout cas, cirez tant que vous le pouvez. »
C'est toi qui l'as inventé ?
Oui, c'est moi.
Alors t'as pas besoin de les apprendre par cœur finalement, si ?
Je sais pas trop. Mais en fait, je vais plutôt les écrire pour plus tard, parce que plus tard, je m'en souviendrai plus.
Et quand c'est que tu les inventes, ces histoires ?
Je sais pas. Mais en fait, je fais des rimes, ça démarre tout seul. Comme ça, pouf.
Pouf ?
Ouais.
T'en dis une autre ?
Ouais. Nicole. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu bats le petit chat, ce n'est pas bien. Tu sèmes des petits grains pour y planter des jolies fleurs dans ton jardin joli. Mais celle-là, en fait, je ne l'ai pas trouvé de titre. Je ne sais pas quoi lui trouver comme titre.
Encore.
Non, mais les autres, elles sont pas très bien, les autres que j'ai inventées.
C'est celle-là tes préférées ?
Oui.
Bon, mais alors, quand la maîtresse à l'école te demande d'en apprendre, t'as pas envie d'en apprendre, toi, du coup ?
Si, parce que moi, j'aime bien apprendre, mais en fait, si on veut apprendre, il faut apprendre par amour. Moi, quand j'apprends quelque chose, je sais pas, moi, une leçon, j'apprends avec le cœur parce que sinon, il faut vraiment vouloir apprendre.
Alors, Fougerie, toujours en retard. Tirade d'Harpagon, acte 4, scène 7, jusqu'à la ligne 15. Desmousseaux, récite-nous la barre.
Je n'ai pas appris, mademoiselle.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Viens ici. Alors ?
Je n'ai pas appris, mademoiselle.
En fait, c'est insensé, vous l'aviez bien à apprendre, non ?
Oui, mademoiselle !
Vous avez tous appris la barre ?
Oui, mademoiselle !
Bon, alors ?
Je ne devais pas être là, je n'ai même pas le texte.
Pas de texte ? Tiens, tu as 5 minutes, tu écoutes les autres, je t'interroge. Privadier, tu nous dis le texte.
Au voleur, à la sacerre, au meurtrier. Juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a dérobé mon argent.
Bon, allez, tu t'assois, froment, essaie.
Je sais plus le reste.
Comment, tu t'es arrêtée où alors ?
Je sais pas.
Dans les manuels scolaires, il n'y a pas si longtemps, il y avait à la fin de chaque leçon, que ce soit de grammaire, d'histoire géo, de latin, de maths, un petit paragraphe en gras où il y avait écrit au-dessus « Apprendre par cœur ». Un peu plus tard, on a supprimé le « Apprendre par cœur » et il y avait des petits cœurs.
Les petits cœurs, ça, je ne... Bien que versé dans le métier d'édition scolaire, non, je ne me souviens pas des petits cœurs, mais je me souviens du par cœur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que les livres n'indiquent plus à apprendre par cœur. Modestement et hypocritement, la plupart des éditeurs mettent ce qu'il faut retenir, ce qui est évidemment une invitation à un effort de mémoire. Les enfants apprennent-ils par cœur aujourd'hui ? Ça, je n'en sais rien. Je n'ai plus eu d'élèves depuis un certain temps.
Mais vous, Maurice Melot, vous avez appris par cœur.
Ah, j'ai appris par cœur. Je me souviens même de mon premier par cœur. J'avais 5 ans et demi ou 6 ans, et il était question de la Terre, qui était ronde comme une boule, comme une orange, et je ne sais pas quoi encore. Et je me revois à 9 ans cela, d'ailleurs rapidement. Mais c'est dans ce par cœur-là, c'était dans celui de l'école primaire d'autrefois, celui des années 30, que j'ai un souvenir catastrophique d'une empoignade avec le maître étalon. Et j'en garde encore des souvenirs de honte, parce que, alors que ma mémoire mécanique fonctionne assez bien, là j'ai fait un blocage, et c'est un des premiers souvenirs scolaires pénibles de ma vie, non pas en classe où j'ai très bien récité, mais à la maison où mes parents étaient désespérés d'avoir un fils idiot, parce que je n'arrivais pas à retenir qu'il s'agissait de je ne sais quoi, en platine iridiée, Pour un enfant de 7 ans, c'est commode, Platine Iridier, déposée au pavillon de Breteuil à Sèvres. Et la fin, le début du texte m'échappe, mais la fin du texte ne m'échappe pas, car c'est lui que je n'arrivais pas à restituer. Jusqu'au moment où une paire de claques a mis fin à mes incapacités, j'ai récité.
Le par cœur, on le subit ?
Bah, le par cœur d'un un enfant de 5 à 8 ans, à l'époque où se font les premiers acquis mémoriels fondamentaux pour l'existence, oui, on le subit plutôt. À moins d'être un petit singe savant ou un comédien, quel enfant peut avoir envie d'apprendre les tables de multiplication ? Or, je ne vois pas comment on ne peut pas ne pas apprendre les tables de multiplication, même à l'âge de la calculette.
Et des poèmes ?
Oui, ça, les poèmes, c'est vrai que c'est le par cœur, si je puis dire, qui survit à travers les premiers apprentissages, l'étape de multiplication, on finit par s'en débrouiller, la règle de 3, on s'en débrouille, etc., etc. Les départements, on finit par se les mettre dans la tête. Mais le fil rouge du par cœur dans la vie d'un enfant, c'est effectivement l'apprentissage des poésies. Et qui peut être une opération purement mécanique. Je ne me souviens pas dans ma mémoire, en regardant l'âge de... le temps de mon enfance et de mon adolescence, je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré, en moi-même bien sûr, mais des camarades, qui aient complètement loupé le par cœur sur les poèmes ou les poésies. Bon, ils apprenaient plus ou moins bien, ils avaient des hésitations, ils avaient des mauvaises notes, mais finalement, tout le monde apprenait. Tout le monde apprenait et récitait avec plus ou moins de bonheur. Je passe sur le ton qu'on y mettait ou les mimiques qu'on pouvait esquisser. Mais c'est vrai que ça a été le... pour ma génération, en tous les cas, le par cœur, d'un bout à l'autre de ma scolarité, ça a été l'apprentissage des poésies. Ou de textes en prose, d'ailleurs.
Par exemple ?
Par exemple, le début de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et pour ma génération, celle-là, cette déclaration-là, c'était celle de 1789. Et donc, nous récitions, autant que je me souvienne, on nous faisait apprendre les articles 1 et 2. Et je n'ai jamais réussi à retenir le 2, sauf le jour où j'étais interrogé et où je peaufinais mon interrogation. Le 1, par contre, est resté gravé dans ma mémoire comme au premier jour. Ce qui est une chose, sans doute à cause de la grandeur du texte, et aussi parce que c'était le premier, probablement.
Voyons voir.
À tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
C'est un poème, donc.
Oui, c'est un poème. Enfin, il n'y a pas que la poésie avec son rythme et sa musique qu'on peut fixer dans la mémoire. On peut tout fixer dans la mémoire.
Moi, j'ai une petite anecdote à raconter sur nos hommes politiques, qui sont toujours quand même un sujet extrêmement juteux. Bon, ça doit faire 22 ans que je travaille avec Jean-François Kahn, qui est mon patron, quoi qu'il arrive, de journal en journal. Il fut un temps où il m'envoyait tous les mercredis à l'Assemblée nationale, mercredi jour des questions orales au gouvernement. Et ma mission, pas du tout secrète, consistait à guetter ces messieurs qui sortaient de l'hémicycle. Je les guettais dans la salle des quatre colonnes et je leur posais une question qui avait forcément à voir avec la mémoire. Bon, la première a été, est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour ? Ils ont tous un peu cafouillé, mais enfin, par vantardise, ils m'ont raconté des histoires extrêmement édifiantes. La deuxième question, c'était... Est-ce que vous vous souvenez des articles de la Constitution à l'Assemblée nationale, hein, les ministres ? Il y en a un ou deux, je ne vais pas dénoncer là, je ne fais pas de délation. Il y en a un ou deux qui m'ont cité trois ou quatre articles, il y en a 89. La plupart n'en savaient rien. Ce qui fait que j'ai filé immédiatement au Sénat en me disant je vais peut-être trouver avec des gens plus mûrs, plus posés, je vais peut-être trouver quelqu'un qui va me... donner enfin la Constitution. Et en effet, je suis tombée sur un sénateur, maire du 16e, qui a pris son élan, m'a dit « Voulez-vous que je vous cite les 89 ?» J'ai dit « Non, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Il fallait que je retourne encore à l'Assemblée nationale. » Il a juste pris son élan et sans reprendre son souffle, il a dû m'en citer une bonne quarantaine. Là, je l'ai arrêté parce que j'avais vraiment d'autres choses à faire.
40 ?
Oui. C'était Pierre-Christian Tétinger. Et puis, j'avais une autre question à soumettre au ministre de l'Assemblée, à l'Assemblée, c'était toujours le mercredi, et je me rebalade auprès de tous les ministres qui me voyaient arriver d'un œil pas tellement amical, Et je leur pose la question, est-ce que vous connaissez quelques couplets de la Marseillaise, sachant qu'il y en a 7. Alors le premier, aucun problème. Hein. Le premier couplet, tout le monde me l'a vaguement susurré, à nos enfants de la patrie, aucun problème. Le deuxième, qui est, je crois, c'est soit nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus.
Non, ça c'est le dernier, ça.
Alors c'est le deuxième, c'est que veut... Amour sacré de la patrie, non.
Amour non, sacré de non, la patrie. Que veut cette horde d'esclaves, voilà. De traîtres, de rois conjurés.
À partir du deuxième, ça commençait déjà à cafouiller. Le troisième, terminé, il n'y avait plus personne. Et d'ailleurs, avec un ensemble absolument touchant, il haussa les épaules. En disant, en fait, quel intérêt quel... Sauf Jean-Pierre Chevènement, qui à l'époque, je ne me souviens plus s'il était ministre de la Défense, ministre de l'Éducation ou ministre de l'Industrie. Donc c'est l'un des trois, comme quoi je ne connais pas grand-chose par cœur. Il m'en a chanté 3 a cappella dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. Ça a été le plus fort.
Où sont mes petits souliers? Quelqu'un me les a volés. Ils sont peut-être dans mon armoire ou bien alors dans mon tiroir. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus.
C'est par cœur, c'est par corps, c'est par pied, c'est par main, c'est partout, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment tout le corps qui rentre en mémoire, quoi. Et les mots du texte sont qu'une petite partie de cette mémoire. Par exemple, pour apprendre un texte, il y a 1000 solutions. Mais il y en a 2. Il y a celle qui consiste à s'échiner, à apprendre de mémoire, c'est-à-dire vraiment avec la tête, comme à l'école. Et puis il y a celle qui est beaucoup plus miraculeusement efficace, qui consiste à commencer à travailler sur le plateau, dans l'espace, avec le texte à la main. Et comme par miracle, le lendemain, on le relit une fois et on le sait, effectivement, par cœur.
Ah bon ?
Et oui, et ça, c'est parce que, justement, il est entré en jeu à ce moment-là des tas d'autres facteurs qui participent de la mémoire, mais qui ne sont pas de la mémoire purement consciente, purement intellectuelle, purement... Oui, purement scolaire, quoi. Mmh.
Ça veut dire qu'il y a une mémoire du jeu, des gestes, des situations.
Il y a une mémoire du corps qui est assez mystérieuse parce que c'est difficile à... C'est pas tout à fait aussi simple que les expériences de Pavlov. Enfin, c'est pas aussi radical que ça, en tout cas. Mais ça participe un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire... je sais pas si elle est inconsciente, subconsciente, j'en sais rien. Mais qui fait que... Chaque fonction, à la limite, du corps, que ce soit le regard, le mouvement, le déplacement, etc., appelle, dans cette machine incroyable quand même qu'est le cerveau, appelle une parole. Et de cette façon-là, le texte s'assimile, en fait, avec une facilité souvent déconcertante.
Jamais, quand vous êtes chez vous, Éric Dufay, donc vous apprenez par cœur. Vous récitez en répétant.
Si, non. Si, bien sûr, si. Parce que, bon, d'abord, il y a des circonstances où on est obligé de le faire. Quand on a soit très peu de temps de répétition. Enfin, ça se fait en plusieurs étapes, quoi. C'est facilitant, disons, d'arriver au plateau avec donc, le texte à la main et puis de commencer à travailler. C'est facilitant pour la mémorisation du texte. Mais après, il y a quand même de toute façon. Un moment où il faut en passer par une mémorisation bête et méchante, parce que cette mémoire-là, celle dont je parlais tout à l'heure, celle du mouvement, du regard, etc., elle remplit un rôle très important, mais elle ne suffit pas absolument. C'est-à-dire qu'il faut quand même, malgré tout, surtout quand on décide de travailler dans un respect scrupuleux d'un texte, ce qui, dans le cas d'un texte en vers, par exemple, est absolument impératif. Là, on est quand même obligé, donc, après, de recourir à une relecture, mais cette fois très attentive, très, très cérébrale du texte.
Là, comment vous faites, vous ? Vous avez des trucs ?
Il y a 1000 trucs, oui. Moi, j'en ai un qui est, alors, encore une autre mémoire, c'est la mémoire visuelle. À chaque fois que j'aborde un texte, je commence par le stabiloter en jaune, toujours en jaune, parce que ça pète. Et ce qui fait que j'ai aussi donc le recours à la mémoire visuelle de la page écrite. Bon, ça c'est très facile à comprendre. Sauf que ça peut jouer des tours aussi, parce qu'il y a des fois où, en répétition souvent, il y a des fois où, alors que je suis en train de travailler, d'essayer de jouer, quoi, autant que faire se peut, défilent dans ma tête les images des pages, et je vois les traits jaunes et l'épaisseur des pavés jaunes ou des petites marques jaunes. Mais parfois, je vois très bien les traits jaunes, mais je vois plus du tout ce qui est écrit dessous. Donc, ça joue des tours. Mais toutes les mémoires jouent des tours, de toute façon. Ça, il n'y a pas de méthode absolue. On n'est pas des ordinateurs. Et encore, même les ordinateurs, il en arrive des bricoles. Donc, il y a ça. Il y a parfois aussi, j'écris. Je recopie, en fait.
Plusieurs fois ?
Non, en général, une fois suffit, parce que alors encore une autre mémoire qui rentre en jeu, celle du geste, mais du geste de la main, qui peut servir de recours aussi, parce que la main se souvient.
Bon, Desmousseaux, tu le sais maintenant, tu nous le dis.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent.
Bon, tu vois, c'est pas mal pour 5 minutes. Enfin, si tu l'avais appris hier, tu sauras un peu plus maintenant. Bon. Tu t'assois. Brouillard, à toi.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné.
Bon, arrête. Tu sais bien ton texte, mais on a l'impression que tu comprends pas du tout ce que tu dis. Tu le dis toujours sur le même ton. Alors recommence.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel.
Bon, écoute, tu es peut-être têtu, mais moi aussi, figure-toi. Alors on y passera la matinée, s'il le faut, la journée. Alors, tu vas le dire convenablement cette fois-ci. Tu recommences.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis...
Asseyez-vous. Excusez-moi, mademoiselle Petit. Voilà, Julien Leclou. C'est un nouveau, mais il est trop grand pour moi, alors c'est sûrement pour vous.
Regarde bien une place vide là-bas. Tu vas t'asseoir.
Garel, je te nomme responsable de la classe jusqu'à mon tour.
J'ai appris, depuis quand même quelques années, mais des poèmes de Saint-Jean de Perse, par exemple. Mais ça, c'est un peu spécial. J'aurais jamais, peut-être même pas lu Saint-Jean de Perse, mais ma fille a présenté une thèse d'État à la Sorbonne, et je lui ai proposé de lui taper sa thèse. Alors, il a fallu que je lise Saint-Jean de Perse. Alors là, j'étais... D'abord, comme dans une forêt obscure, où je distinguais à peu près rien et où je comprenais pas grand-chose. Mais alors, de temps en temps, très vite, je me suis aperçue... D'abord, il y avait comme des rayons de soleil, c'était des phrases qui étaient très très belles, à peu près dans tous ces poèmes. Et puis, je me suis aperçue aussi que de temps en temps, je tombais comme dans une clairière dans cette forêt, et dans une clairière où j'étais émerveillée. Parce que c'était absolument superbe et une écriture merveilleuse. Et j'ai trouvé un Cinège. Et alors je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai relu. Et puis après, un beau jour, je me suis aperçue que je le savais à peu près. Alors j'ai appris.
Tout simplement.
Tout simplement. Voilà.
C'est dur, parce que c'est de la prose.
C'est de la prose, mais c'est une prose merveilleuse. Merveilleuse, poétique, facile dans le fond. Sauf peut-être la dernière page de Neige qui est plus difficile. Alors, et que je ne réciterai pas.
Les premières, on peut essayer ?
Oui, oui. Alors, Neige. Oui. Et puis vinrent les neiges, les premières neiges de l'absence sur les grands laits tissés du songe et du réel. Et toute peine remise aux hommes de mémoire. Il y eut une fraîcheur de linge dans nos tempes, et ce fut au matin sous le sel gris de l'aube, un peu avant la sixième heure, comme en un havre de fortune, un lieu de grâce et de merci, pour licencier les grandes odes du silence. Et toute la nuit, à notre insu, sous ce haut fait de plumes portant très haut vestiges et charges d'âme, les hautes villes de pierre-ponce forées d'insectes lumineux n'avaient cessé de croître et d'exceller dans l'oubli de leur poids. Et cela seul en sure quelque chose dont la mémoire est incertaine et le récit est aberrant. La part que prit l'esprit à ces choses insignes, nous l'ignorons. Nul n'a surpris, nul n'a connu au plus haut front de pierre le premier affleurement de cette heure soyeuse, le premier attouchement de cette chose fragile et très futile comme un frôlement de cils. Sur les revêtements de bronze et sur les élancements d'acier chromé, sur les moellons de sourde porcelaine et sur les tuiles de gros verre, sur la fusée de marbre noir et sur l'éperon de métal blanc, nul n'a surpris, nul n'a terni cette buée d'un souffle à sa naissance comme la première transe d'une lame mise à nu. Il neigeait, et voici, nous en dirons merveille, l'aube muette dans sa plume comme une grande chouette fabuleuse en proie au souffle de l'esprit enflait son corps de dahlia blanc, et de tous les côtés il nous était prodige et fête. Et le salut soit sur la face des terrasses où l'architecte l'autre été nous a montré des œufs d'engoulevent. Eh ben, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ?
Ah, c'est magnifique, comme et puis c'est magnifiquement récité. Je n'ai pas vérifié s'il y avait des fautes. Mais...
Non, je ne crois pas. Mais c'est superbe quand même, cette description de la neige qui tombe là. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, mais je ne vais pas tout vous réciter, hein, ça serait ridicule.
Mais c'est rentré comme ça, petit à petit,
oui,
en fait.
Oui, petit à petit, je l'ai... ça m'a plu. Hein. Je crois qu'il faut que ça plaise, hein, quand même.
Et ça peut vous arriver, par exemple, si vous êtes immobilisé au lit, malade ou dans le train, enfin, de vous réciter.
Oui, je le récite dans le métro, souvent, aux heures de pointe, quand on est serré, comme tout. Là, je me barbe un peu, alors je récite « Neige ».
C'est bien.
Je peux pas dans le métro. Hein. De temps en temps, je me le récite pour moi, comme ça. Mais enfin, maintenant, je vais un peu revenir au poème de mon enfance.
Chanson d'automne. Les sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au temps mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Ah oui, je me souviens, c'est Paul Verlaine.
Tu vois, c'est venu tout seul, hein?
Ouais. Parce que j'avais eu l'habitude de la réciter en disant « Je m'en vais au temps mauvais de ça, de là, pareil à la feuille morte, Paul Verlaine. » J'avais eu l'habitude de la réciter en disant Paul Verlaine à la fin, donc maintenant c'est venu tout seul.
J'étais scout. Et donc, quand on faisait des feux de camp, on chantait des tas de chansons qui ne m'en reviennent pas comme ça à la seconde, mais si vous m'en commencez une, je vous
la tiens. Colchique dans les prés.
Non, on n'avait pas de fleurs chez les scouts. C'était les EIF, les éclaireuses israélites de France. On chantait autour du feu de camp, des chansons qui parlaient du feu de camp. On chantait des chansons extrêmement patriotiques. Là, elles ne me reviennent pas, mais je vous jure que c'est vrai. Là, je mens pas. Sinon, je vous le dirais. Mais les seules chansons d'enfance que j'ai retenues, c'était ça. Des choses qu'on a beaucoup aimées quand on était enfant. Et ce qui explique que quand on devient vieux et qu'on devient un peu gâteux, on oublie tout. On oublie notamment si on est allé chez le boulanger le matin alors qu'on y pensait depuis la veille. Mais on se souvient très très bien de la chanson qu'on a apprise quand on était petit. Ou... Et je vais vous donner un autre exemple. Ma mère, qui est morte il y a très peu de temps, qui avait connu des périodes extrêmement difficiles d'occupation, etc. Ma mère, donc, est devenue sénile. Et comme nous sommes des êtres paradoxaux, quand on devient sénile, on retombe en enfance. Mais au point où elle ne me reconnaissait pas. Quand j'allais la voir, elle me disait « Bonjour madame ». Et quand j'allais la voir, comme je ne savais pas quoi lui dire, parce que qu'est-ce qu'on dit à une personne qui ne comprend rien et qui ne se souvient pas trois secondes après de ce que vous lui avez dit et qui de toute façon ne s'intéresse pas du tout à ce que vous avez à lui dire, je lui chantais des chansons qu'elle m'avait apprises quand j'étais petite, qui étaient des chansons en hongrois ou en yiddish. Je démarrais la première ligne, Azasep, Azasep, Akinekasemekek, immédiatement, elle sautait à pieds joints dedans, elle me la terminait jusqu'au bout. Je la lui faisais répéter en espérant que ça pourrait peut-être ouvrir une petite porte dans son cerveau embrumé. Pas du tout. Elle me donnait tout son répertoire de chansons hongroises, de chansons yiddish, dont à yiddish et ma mec, évidemment, aucun juif au monde n'ignore. Elle m'enchantait facilement 20, dont elle se souvenait, mais comme j'ai dit tout à l'heure, au rasoir. Rien ne lui échappait de ses chansons. Et quand je me trompais, elle me disait « Mais non, tu t'es trompée !» Et elle me reprenait.
Il y en a une dont vous vous souvenez plus particulièrement ?
Des chansons hongroises ?
Oui.
Oh, il y en a une qui est tellement triste ! Tellement triste ! Oui, c'est l'histoire d'un type qui va se promener, parce qu'il n'est pas très gai de nature, il va se promener autour d'un cimetière, parce que je crois que sa fiancée est morte, et il raconte qu'il a perdu un foulard. Mais que ce foulard, la perte de ce foulard ne le rend pas triste du tout. En revanche, ce qui le rend triste, c'est d'avoir perdu sa fiancée. Ah, je peux vous chanter les quelques premières lignes. Je vous préviens, c'est sinistre. Elle mentetem azor moditem etun. Elvestetem, elvestetem, elvestetem piroch barchon keskenum. Ce qui veut dire le petit foulard en soie rouge. Piroch barchon keskenum et nembanum. Csakarégi, csakarégi, csakarégi szeretőmet sajnálom. Bon, c'est pas ma langue, je suis née à Paris, mais c'est vrai que quand j'étais petite, mes parents parlaient hongrois entre eux, et donc je comprends pratiquement tout. Mais les chansons sont pour moi, vous voyez, j'en ai le frisson, quoi. Pour moi, les chansons hongroises, même tristes, c'est l'enfance heureuse, toute petite enfance heureuse avant l'arrivée des nazis, c'est vraiment l'enfance, alors que je suis née dans le 12e à Paris.
Et dans votre cas, Odile Grand, quand même, le par cœur, c'est étymologiquement ce que vous aimez, quoi, ce qui vous a touché.
Oui, mais le par cœur musical. Oui. Il me faut la musique. C'est-à-dire que ce qui est très curieux, c'est que les choses que j'ai apprises après la théorie que j'ai exposée tout à l'heure, selon laquelle tout ce qu'on a appris quand on était petit vous reste forcément, n'est vrai pour chacun qu'avec une particularité. Moi, ma particularité, c'est qu'il me faut la musique accompagnatrice de ce que je peux réciter par cœur. Parce que le hongrois, là, ce que je viens de vous chanter, c'est du bon hongrois, où je ne fais pas une seule faute d'hongrois. Si je dois demander mon chemin à quelqu'un à Budapest, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, je fais évidemment 45 fautes. Il n'y a pas la... Alors peut-être que si je demandais mon chemin en chantant, ça changerait peut-être la donnée des choses, je ne sais pas.
Silence les enfants, votre mère sera un peu en retard ce matin. Soyez raisonnables, ne m'obligez pas à remonter.
Il y a des gens qui ont appris pendant la guerre des textes par cœur. Je pense à Jean-Marie Domnac en particulier, qui apprenait beaucoup de choses par cœur, en particulier Vigny, Victor Hugo, Hölderlin, pour le cas où il serait fait prisonnier pendant la résistance.
Oui, oui. Bah oui. À la lumière de ce qu'on sait de ce qu'est une captivité parfois totale, obscure, oppressante, je pense aux otages de Beyrouth, puisque par mon épouse, je connais l'un d'entre eux qui, 2 ans, est resté attaché à un radiateur avec, par miracle, il n'a jamais compris pourquoi on le lui avait donné, avec par miracle une Bible. La Bible a beau être longue, épaisse et obscure, en 2 années, on a le temps de la lire plusieurs fois, et Kaufmann, puisqu'il s'agit de lui, l'apprenait par cœur et méditait sur le contenu de la Bible, alors qu'encore une fois, on ne lui enlevait pas le livre. Il ne risquait pas d'en être démuni. Alors je crois que d'ailleurs, il a fait comme Domnac, c'est-à-dire qu'il a, du même coup, il a fait remonter à sa mémoire des morceaux de poèmes, mais surtout, il a plongé dans la Bible, non seulement en la lisant, mais en acquérant d'énormes morceaux par un par cœur qui ne s'imposait pas comme un exercice, mais qui devenait pour lui quelque chose d'aussi indispensable que le souffle. Dans le cas le plus extraordinaire que je connaisse de référence littéraire à cet égard, c'est le cas de Soljenitsyn et ses 10 ans de goulag, et qui n'a pas sombré dans le désespoir ou la folie en composant des poèmes, je ne sais pas, en composant en tous les cas un poème sans papier et sans crayon. Et puis aurait-il eu du papier et du crayon, il n'aurait pas pu échapper à l'œil de ses gardiens, puisque le poème final atteignait 40 000 vers. Et c'est dans l'archipel du Goulag, je ne sais même plus du volume, il raconte cette chose qui... m'a ému quasiment aux larmes, parce que comment regarder ça sans frémir, n'est-ce pas? Cet homme qui marchait avec ses compagnons, 2 heures à l'aller, 2 heures au retour, ou 1 heure et demie, ou 3 heures, enfin peu importe, parfois dans des froids de moins 30 degrés, d'abord pour tenir le coup, physiquement, moralement, ensuite pour ne pas laisser échapper son poème, ensuite pour continuer à le construire, se récitait les 40 000 vers, arrivé au 40 000e ou 40 000 unième, s'il en avait inventé un, il recommençait au cours de ses interminables marches, et il a mis par écrit ce poème le jour. Les premiers mois, il a été libéré. Un cas pour moi fabuleux pour parler le langage convenu de la victoire de l'esprit sur la matière. C'est une vitalité morale et mentale prodigieuse.
Je vous demanderai comment il fait le vrai Harpagon. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. M'a coupé la gorge, m'a dit remets mon argent. Qui peut-être? Qui est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir ou ne pas courir? Voilà. Est-il pas ici? Qui est-ce? Arrête! Envoie mon argent, Gauquin! C'est moi, mon esprit troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. C'est fini.
Dites-moi.
Que faire au monde?
Qui débrouille très bien chez vous? Vous leur donnez des cours d'art dramatique ou quoi?
Je n'en suis plus!
Oui, j'ai de bons éléments.
Et est-ce que d'une représentation à l'autre, il y a évidemment des choses qui changent, il y a des intonations qui changent, il y a des mots qui sont peut-être avalés, des vers qui sont sautés des fois, non? Ça arrive pas?
Oui, ça, ouais.
Alors, on restitue jamais vraiment le par cœur, en fait.
Idéalement, si, mais il y a toujours des accidents, effectivement. Mais d'abord, les moments d'accident comme ça au théâtre produisent souvent des petits événements toujours intéressants, qu'il s'agisse de trous, de troubles, même de fou rire. Bon, c'est une chose dont je suis absolument ennemi, mais quand ça arrive, il arrive parfois que ça déclenche des choses tout à fait... qui sont vraiment de l'ordre du théâtre, quoi, c'est-à-dire de cette matière vivante qui est là, quoi. Et donc, effectivement, le par cœur à ce moment-là est un peu malmené.
Et alors, à ce moment-là, il n'y a pas un par cœur du jeu, parce que dans la représentation suivante, on ne cherche pas à retrouver ce moment d'émotion qui est parti d'un trou, d'un trouble, d'une erreur.
Si, parfois. C'est-à-dire, un trouble comme ça peut faire découvrir aux acteurs eux-mêmes des choses que des mois de répétition ne leur auraient pas fait découvrir. Et à ce moment-là, pourquoi pas, effectivement, chercher à... Il y a une nouvelle information qui s'est inscrite dans la mémoire, à ce moment-là, des acteurs, par accident, d'une façon fortuite, qui peut être heureuse, qui peut être malheureuse, mais bon. Et effectivement, à ce moment-là, pourquoi pas chercher à restituer ça, à refaire. Le théâtre, c'est l'art du refaire. C'est une dimension du théâtre. Là, on est en plein dans le vif du sujet, hein. Le par cœur. C'est cette pratique incroyable, en fait, qui consiste à vivre à heure fixe des choses pour la première fois. Ça, c'est un peu paradoxal, mais...
Donc, par cœur, c'est avec cœur.
Mais oui, en fait, bien sûr. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on entend en général par cette expression.
C'est pas le savoir des imbéciles.
À mon sens, c'est tout le contraire, justement, oui. Alors que souvent, par cœur est associé à contre-cœur, par exemple. Et en fait, c'est tout le contraire. Puisque justement, c'est une mise en jeu de tout l'être, du corps, de toutes les fonctions de l'être. Donc, effectivement, c'est du fond du cœur.
La confiture, ça découline, ça coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut bien mettre du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Ça sert à rien, c'est au bonheur, car ça coule sur les côtés. Faudrait contrôler les sacs tartines, la tenir droite exactement. On la met en bouche, elle s'incline. Puis après, je me rappelle plus. On a appris, mais je me rappelle plus.
Vous chantonnez quand vous vous promenez ?
Ah, moi, je chantonne tout le temps, quand j'attends le bus. Mais je chantonne...
En silence ?
Ah oui, à voix, à lèvres fermées, parce que je veux pas passer pour ces vieux gâteux qu'on voit dans la rue ou dans l'autobus qui parlent tout seuls, qui se tiennent des conversations, des dialogues extrêmement compliqués. Moi, je chante beaucoup... En fait, pour retenir l'air, il faut que les paroles soient formidables. Et pour retenir les paroles, il faut que l'air soit formidable. C'est une espèce de mariage d'amour. Une chanson est une...
Que ça vous parle, que ça résonne en vous.
Oui, il faut que les deux soient bien. Trainet, c'est le roi. Trainet, c'est l'empereur du mariage réussi entre la musique et les paroles. Et c'est pour ça qu'on peut jamais... Si je mets au défi qui que ce soit d'avoir appris une chanson de Trainet... En se forçant, même s'il n'aime pas ça, de l'oublier un jour. On se souvient forcément, une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? Vous vous en souvenez à vie. Ou bien, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, du ciel par-dessus les toits. Il y a de la joie, partout il y a de la joie. Bon, vous ne l'oubliez jamais. Mais la musique est aidée par les paroles et les paroles sont aidées par la musique.
Une fleur à la bouche, c'était pas une rose à la main, c'était une fleur à la bouche.
Oui.
C'est celle-là que je voulais dire.
Nan nan nan, nan nan nan, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère. C'est tout ce qu'il faut à nos filles et garçons pour aller au bout de la terre. Nous avons été scouts, toujours prêts.
Un jour, j'ai rencontré des camarades qui n'avaient pas divulgué la chose comme si c'était, ça tenait au langage sacré d'une société, une société secrète. Il y a eu des moments, peut-être cela se fait-il toujours, où dans cette civilisation scout, du plein air, de l'exaltation du corps discipliné, etc., etc., des scouts de 13-14 ans apprenaient, évidemment par cœur, des chants sioux. Je dis bien Sioux. Alors, j'étais incapable, je le serai encore aujourd'hui, de savoir si ce qu'il me récitait, mais sous le manteau, n'est-ce pas, ça ne se disait pas à tout le monde, était convenable ou pas, s'ils avaient un bon accent, ou si simplement les mots étaient abominablement écorchés, mais ils avaient le sentiment d'appartenir un petit peu, quelque peu, au monde de la société libre qui vit au grand air, sous le ciel, dans la savane, dans la prairie, pardon. Bon, voilà un degré du par cœur. Il y a le par cœur, bien sûr, scolaire que nous avons évoqué. Je ne vois pas comment on pourrait se passer du par cœur pour un certain nombre d'acquisitions de base. Personnellement, encore à mon âge, j'apprends par cœur des listes de vocabulaire quand j'étudie des langues étrangères que j'ai mal étudiées ou que je veux acquérir, parce que c'est comme ça, c'est mon dressage peut-être de l'enfance qui continue. Je vois autour de moi des hommes de tous âges apprendre des langues étrangères par une espèce de bain linguistique, mais où, bien sûr, ils ont l'air de ne pas prendre des listes de... un papier, comme moi j'en ai, où je cache du russe vers le français, ou du français vers l'allemand, pour réciter dans les deux sens, et où j'acquiert mon vocabulaire. Peut-être beaucoup de gens ne font-ils pas cela. Je doute qu'ils aient un savoir exact. Mais si je me permets de vous citer une anecdote, et puis... un cas de par cœur qui m'a extraordinairement frappé, c'est une minuscule anecdote. La scène se déroule en avril 1940, un drôle de guerre donc, et l'Allemagne attaque les pays scandinaves. L'Allemagne envahit le Danemark et envoie ses troupes à travers la mer du Nord conquérir la Norvège. Et alors, grande nouvelle, imaginez ce qu'est la guerre, le front en France ne bougeait pas, il se passe quelque chose. Et on entend le communiqué à la radio, et moi, bon élève, car j'étais bon élève, très studieux, très, très soucieux de bien faire, j'entends un nom bizarre, à savoir que les bateaux allemands s'étaient heurtés aux bateaux anglais dans le Skagerrak. Et je dis, quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Et alors, devant moi, ma mère, une amie d'enfance, j'étais en province, et ma tante, toute formée au début du XXe siècle, les trois femmes me disent, mais enfin, en même temps, mais enfin, tu ne sais pas ça. Je dis, mais je ne sais pas quoi. Mais enfin, le Skagerrak, le Kattegat et le Sunt. Je dis, mais de quoi parlez-vous? Et alors, ce qui m'avait frappé, et je revois ces trois femmes, aujourd'hui disparues, dans leur mimique, car non, alors ce sont les noms des trois qui séparent le Danemark de la Norvège, de la Suède, et Copenhague de la côte suédoise toute proche. Et ça, quand je dis Skagerrak Kattegatsund, je vais d'ouest en est, en arc de cercle. Et toutes les trois ont fait ça, n'est-ce pas, avec la main, ce qui évidemment, dans une audition, ne peut pas être rendu. Autrement dit, reproduisant le geste de leur instituteur. Et toutes les trois étaient dans des classes différentes, elles n'étaient pas dans la même classe, etc. Toutes les trois avaient retenu cela. Vous me direz à quoi ça leur a servi, au minimum, à placer dans la carte mentale qu'elles avaient, dont elles pouvaient disposer, de placer la bataille qui avait eu lieu. Mais l'inouï, c'est que trois femmes d'origine différente, d'écoles différentes, de maîtres différents, avaient retenu ça pour elles comme une évidence, comme on apprenait, encore une fois, la règle de trois ou la table de multiplication.
Ça fait penser, cette anecdote, à la gravure de Daumier. Je ne sais pas si vous la connaissez, où il y a un professeur qui est à son bureau sur une estrade, un cancre en dessous, avec un bonnet d'âne. Le professeur se penche sur lui et lui dit « Comment, monsieur, vous ne connaissez pas les trois frères de Clodomir? Vous voulez donc plus tard être une charge pour la société ?»
Oui, ça me souvient. Donc je suis une charge pour la société.
C'est marrant, le Parker. C'est un bon sujet, d'ailleurs. Une fois, je me suis dit « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter sur le Parker ?» Puis finalement, on trouve plein de trucs en réfléchissant.
Oui, ou en chantant.
Oui. La 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 la. Une fleur au chapeau. Qu'est-ce qu'on chantait autour du feu de camp?
Et là-haut sur la montagne.
Ah oui, là-haut sur la montagne, il y avait un vieux chalet.
Mur blanc, toit de bardon, devant la vin, le boulot.
Là-haut sur la montagne, il y avait un vieux chalet. Et on faisait ça à trois voix.
Oui.
Alors moi, je faisais la seconde. C'était magnifique.
Je vais vous lire une tirade, enfin quelques vers, Éric Dufaille, et je pense que vous allez reconnaître. Enfin, vous devriez. Je me souviens toujours que je vous dois l'Empire, et sans vous fatiguer du soin de le redire, votre bonté, madame, avec tranquillité, pouvait se reposer sur ma fidélité. Aussi bien ses soupçons,
ses plaintes assidues, ont fait croire à tous ceux qui les ont entendus que jadis, j'ose ici vous le dire entre nous, vous n'aviez sous mon nom travaillé que pour vous. Tant d'honneur, disait-il, et tant de déférence, sont-ce de ses bienfaits de faible récompense. Quel crime a donc commis ce fils tant condamné? Est-ce pour obéir qu'elle l'a couronné? N'est-il de son pouvoir que le dépositaire? Non que si jusque-là j'avais pu vous complaire, je n'eusse pris plaisir, madame, à vous céder ce pouvoir que vos cris semblaient redemander. Mais Rome veut un maître et non une maîtresse. Vous entendiez les bruits qu'excitait ma faiblesse, le Sénat chaque jour et le peuple irrité de sourire par ma voix dictait vos volontés. Publiait qu'en mourant Claude avec sa puissance m'avait encore laissé sa simple obéissance. Vous avez vu 100 fois nos soldats en courroux, porter en murmurant leurs aigles devant vous, honteux de rabaisser par cet indigne usage les héros dont encore elle porte l'image. Tout autre se serait rendu à leur discours, mais si vous ne régnez, vous vous plaignez toujours, avec Britannicus contre moi réunis. Vous le fortifiez du parti de Junie, et la main de Pallas trame tous ses complots. Et lorsque malgré moi j'assure mon repos, on vous voit de colère et de haine animée, vous voulez présenter mon rival à l'armée, déjà jusqu'au camp le Briton a couru.
Bravo.
Moi, le fer empereur, un Graal, avez-vous cru?
Agrippine, maintenant.
Oui.
Pas une faute.
Si, justement, mais ça, c'est intéressant, d'ailleurs.
Si, une faute?
Oui,
non,
oui,
une
j'ai
hésitation.
Failli dire contre
oui.
Au lieu d'avec Brit, ce qui m'est jamais arrivé, la représentation. Mais ça, c'est parce que on est là, justement.
Oui,
on est
vous là êtes dans pas en condition.
Ben oui, dans un contexte tellement différent que, du coup, il n'y a plus que...
L'intellect.
Que la tête, oui, qui est sollicitée. Et la tête, apparemment, ça ne suffit pas, puisque j'ai failli faire une faute, un lapsus. Avec et contre, ce n'est pas la même chose.
La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. » Que faites-vous, étant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantier, ne vous déplaise, vous chantier. J'en suis fort aise et bien dansée maintenant.
Ah ben, c'est très bien. Tu crois que tu vas l'oublier très vite, la cigale et la fourmi?
Non, parce que c'est comme c'est des fables de Jean de La Fontaine, ça s'oublie pas très vite, parce que Jean de La Fontaine, quand même, il est assez connu. En plus, là, on a le livre à la maison. Alors, moi, à mon avis, moi, je vais pas l'oublier.
T'as feuilleté dans le livre, il y en a d'autres que tu as vus?
Oui, et puis les CE2, parce que moi je suis dans une classe de double niveau, ils apprennent le lion et le rat. C'est une poésie très difficile, le lion et le rat.
Révision des dates importantes du 15e au 18e siècle. Falipou, 1572.
Le massacre du Saint-Barthélemy,
1610.
Rosa, 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 Rosé, Rosé, Rosa. Rosé, Rosé, Rosa, Rosarum, Rosis, Rosis. Je la récite avec l'accent de mon temps, hein, parce que maintenant c'est un peu changé. Hein. Bon, après il y a Dominus, Domine, Dominum, Domini, Domino, Domino. Domini, Domini, Dominos, Dominorum, Dominis, Dominis. Après, Templum, 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 Templi, Templo, Templo. Templa, Templa, Templa. Templorum, Templis, Templis. Plus personne ne le sait maintenant.
Oui, je sais pas, oui.
Bon, après il y a Dies, Dies, Diem, Diei, Diei, Die. Dies, Dies, Diem, Dierum, Dibus, Dibus.
Oui, c'est pas mal, mais on t'a soufflé.
Voilà, ça c'est... Mais je les ai appris il y a longtemps. Hein. Mais je les ai fait réciter à mes enfants quand même, ça.
Oui, ça on révise avec eux. Hein.
Oui, oui, on révise. Hein.
Oui. Des mousseaux, c'est par ici que ça se passe. Regarde-moi. Tu comprends? Regarde-moi. Regarde-moi, par ici. Mes enfants, des mousseaux, tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu ma question?
Alors, je peux vous faire le singe et vous donner quelques formules de latin et de grec que j'ai pu avoir. Par exemple, en classe de 3e, où l'on étudiait le chant 4 de l'Énéide, c'est-à-dire les amours tragiques de Didon et Énée. Dire si j'ai appris 200 vers, 50 ou 300, je ne m'en souviens plus. Ce que je sais, c'est que dans ma mémoire, ont toujours surnagé les deux premiers. C'est-à-dire, Atregina, gravi jamdudom socia cura, vulnus alit veni et seco carpitur igni. Je prononce comme on prononçait en mon temps, c'est-à-dire en langage non restitué. Je crois qu'un helléniste serait déshonoré s'il ne connaissait pas le premier vers de l'Iliade. Et le voici, menin aidetea, Pelei Adeo Achilleos, etc., etc. Et un des souvenirs les plus cocasses que nous ayons eus, c'était en Cagne, dans une classe de préparation à l'école normale, c'est où, à notre stupéfaction, notre maître nous a imposé d'apprendre par cœur un discours, ne pas des poèmes en grec, on comprenait la rythmique, la beauté poétique, les images, etc., et il nous a dit, vous êtes tous des ânes, vous n'avez pas de vocabulaire, vous ne pratiquez pas les formules les plus courantes du grec ancien, vous prétendez devenir des hellénistes, etc., etc. Bref, la volée de bois vert. Et il nous a fait apprendre un discours de Lysias que beaucoup d'hellénistes, les hellénistes ne sont peut-être plus très nombreux. Mais ceux qu'ils sont, en général, étudient ce texte, c'est le Pour l'invalide de Lysias, qui est une harangue qui a été apprise par cœur, je dis bien apprise par cœur, par l'homme qui défendait son gain, c'est-à-dire un invalide à qui on voulait retirer sa pension. Athènes ne connaissait pas le système de l'avocat qui parle pour son client, c'était le client qui se défendait lui-même, et le client faisait rédiger par son avocat, qu'on appelait un logographe, un texte qu'il récitait par cœur. Bel exemple d'usage de la mémoire. Donc voilà le début de ce texte. Upolo deo carinakein obulet o categoro, Otimoi perasque asse ton agona toutonis, qui signifie « Il s'en faut de peu, ô Sénat, que je ne rende grâce à mon accusateur parce qu'il m'a intenté ce procès. » Suivait 30 pages de texte que nous savions par cœur et qui a été pour les hellénistes, demeurés hellénistes d'entre nous, la base de notre vocabulaire, bien sûr. Car le par cœur, ça sert à ça aussi.
Vous avez les yeux qui brillent, Maurice, quand vous récitez.
Parce que c'est ma jeunesse. C'est mon adolescence, et parce que c'est du grec, madame. Et que les Grecs, je les aime en tout temps, à toutes les sauces et de toutes les façons.
Si vous étiez un texte appris par cœur, Maurice Melot, un livre, vous seriez quoi?
Pardon, ah, si j'étais,
oui,
moi.
Oui.
Je serais quoi ? Ah, je serais ou l'Iliade ou l'Odyssée. J'apprends, je proposerais d'apprendre ou l'Iliade ou l'Odyssée, ou si j'y vis assez longtemps, d'apprendre les deux.
Oh, je ne me suis pas présenté. Je suis la vie de Henri Brulard, par Stendhal.
Deux ou trois choses que je sais par cœur. Avec Odile Grand, Léa et Alice, Maurice Melot, Simone Sacotte et Éric Dufaille.
Avez-vous déjà lu La République de Platon ?
Eh bien, c'est moi, La République. Je ne réciterai pour point, je vous aurai dit.
Merci beaucoup. Voilà Les Hauts de Hurlevent, par Émilie Brontë. Là-bas, c'est Ulysse de Joyce. Il a mangé son livre page par page pour qu'on ne le brûle pas. En attendant Godot, de Samuel Beckett. Regardez la petite blonde qui s'avance vers nous en rougissant.
Je suis Jean-Paul Sartre, la question juive. Enchantée de vous connaître.
Je suis Jane Austen, Orgueil et Préjugé.
Et moi, Jane Austen, Orgueil et Préjugé.
Tous les deux le même livre ?
Mon frère est le tome 1.
Mon frère est le tome 2.
C'est un bien grand plaisir de vous connaître.
Extrait des films de François Truffaut, L'argent de poche et Fahrenheit 451, Nuit magnétique, Pierre Garrigue, Nathalie Fadeau, Pierre Mine, Véronique Lamandour, Catherine Soulard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mars 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. The best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come.